Imaginez une institution qui est partout dans la vie d'un pays, vraiment partout. Dans votre traite, les autoroutes que vous prenez, les nouvelles villes qui sortent de terre, et même dans la formation des talents de demain. Au Maroc, cette institution, c'est la Caisse de dépôt et de gestion, la CDG. Et pourtant, pour beaucoup, elle reste une sorte de mystère. Alors aujourd'hui, on a sur la table un dossier spécial d'éco-business qui lève le voile sur ce géant. Et la question de départ, elle est fascinante. Comment une entité qui pèse plus de 360 milliards de dirhams peut rester aussi discrète? Notre mission, c'est de comprendre ça, de voir comment elle est passée de gardienne de l'épargne à véritable moteur de l'économie et surtout de décortiquer son plan de bataille pour l'avenir, le fameux Cap 2030.
Ben, c'est tout le paradoxe. Sa discrétion, c'était sa qualité première. C'était même sa raison d'être. Quand elle a été créée en 1959, c'était pour être le coffre-fort de la nation. Un lieu sûr pour des fonds qui nécessitent, je cite, « une protection spéciale ». Sa mission de base, c'était ça. Protéger, sécuriser.
Et qu'est-ce qu'on entend par protection spéciale concrètement? On ne parle pas de l'épargne courante, c'est bien ça, hein?
Exactement. On parle de ce que les financiers appellent des ressources longues. C'est l'argent des caisses de retraite, le RCAIR, la CNRA. Ce sont les dépôts des notaires, des avocats, les consignations judiciaires. En fait, c'est de l'argent qui va rester là pendant très très longtemps.
D'accord.
Et c'est ça qui lui donne son super pouvoir, si on veut. Le capital patient. Quand votre horizon d'investissement est de 20, 30 ou même 40 ans, vous pouvez financer des projets qu'aucun autre acteur ne peut approcher.
Oui, on ne cherche pas le profit à court terme.
Voilà, on construit les fondations d'une économie.
Ce qui explique ce chiffre absolument colossal de 363 milliards de dirhams de bilan. Mais ce rôle de coffre-fort discret, ça semble un peu en porte-à-faux avec l'image qu'on en a parfois. Le dossier cite son directeur général, Khalid Safir, qui doit souvent tordre le cou à certaines idées reçues.
Ah oui, l'idée que la CDG serait une caisse noire ou un investisseur de luxe.
C'est ça. L'exemple qui revient toujours, c'est celui des parcours de golf.
C'est un excellent exemple de son dilemme de communication. Ces 10 parcours de golf sur un portefeuille de 363 milliards, c'est une poussière. C'est moins de 0,1%. Mais c'est visible, ça frappe l'imagination. Le dossier explique très bien que ces golfs n'ont jamais été une fin en soi. C'était des produits d'appel.
Des leviers, en quelque sorte?
Des leviers, exactement. Pour amorcer le développement de destinations touristiques entières, comme Tagazoutou, Saïdia. Sans cet équipement de luxe, les grands groupes hôteliers internationaux ne seraient peut-être jamais venus.
Donc ce malentendu, en fait, il révèle un changement de fond. On passe d'une mission où il fallait être invisible pour bien faire son travail à une mission où les actions sont très visibles et donc forcément sujettes à la critique.
Précisément. C'est tout le passage de la culture du sécurisé à la culture de l'impacté. Tant que vous êtes un coffre-fort, personne ne vous demande de compte, tant que la porte est fermée. Dès que vous devenez un moteur, tout le monde regarde où vous allez, à quelle vitesse. C'est toute la philosophie derrière le plan Cap 2030. Le changement, il est culturel.
Alors, parlons de ce moteur justement, de son impact sur le terrain. Le dossier utilise une image très forte, la CDG comme architecte invisible du Maroc moderne.
C'est une image très juste.
C'est puissant, mais pourquoi invisible? Un architecte, d'habitude, il veut signer son œuvre.
Bah, son invisibilité vient du fait qu'elle n'est pas le constructeur final. Elle est l'aménageur. C'est elle qui arrive en premier sur un terrain vague et qui y met tout ce qui est cher, long et risqué. Les routes, les réseaux d'eau, d'électricité. Elle prépare le terrain.
Sur une échelle de temps que personne d'autre ne peut assumer, en fait.
C'est ça. Et c'est ça qui rend le projet « bancable », comme on dit, pour les promoteurs privés qui, eux, vont construire les usines ou les immeubles. La CDG, elle ne signe pas le bâtiment. Elle signe les fondations de la ville.
Donnons des exemples concrets, parce que c'est là qu'on mesure l'échelle. Le dossier parle de Zenata, près de Casablanca. Qu'est-ce que ça veut dire pour la CDG de créer une ville durable? C'est plus que mettre quelques pistes cyclables, j'imagine.
Ah oui, c'est bien plus que ça. Pour Zenata ou Casa Anfa, sur le site de l'ancien aéroport, il s'agit de penser la ville dans sa globalité sur 20 ou 30 ans. La mixité sociale, les transports en commun intégrés dès la conception, la gestion de l'eau, les zones d'activité pour que les gens travaillent là où ils habitent.
D'accord, je vois.
La CDG peut imposer ce cahier des charges très strict aux promoteurs parce qu'elle possède le foncier et qu'elle a financé l'infra de base. Un acteur privé, lui, voudrait maximiser son profit à court terme. La CDG, avec son capital patient, peut penser au bien-être des habitants dans 30 ans.
Le dossier la qualifie de dérisqueur de projet, c'est un mot fort. Mais est-ce que ça ne crée pas un risque de dépendance? Si les investisseurs privés s'habituent à ce que la CDG prenne tous les risques, est-ce qu'ils ne perdent pas leur propre appétit pour le risque?
C'est l'éternel débat. C'est une excellente question. À court terme, ça débloque des projets vitaux pour le pays. Pensez aux zones industrielles de Kenitra ou Technopolis à Rabat. Sans l'intervention massive de la CDG au départ, ces écosystèmes n'existeraient tout simplement pas.
Et à long terme?
À long terme, il faut veiller à ce que ça ne devienne pas une béquille. Le but, c'est d'amorcer le marché, pas de le remplacer. Tout l'enjeu, c'est sa stratégie de sortie. Une fois que la zone est viable, elle doit céder ses actifs au privé pour aller dérisquer ailleurs.
Et c'est ailleurs, cette nouvelle frontière. Aujourd'hui, ce sont les Tech Valley. Casablanca Tech Valley, Dakhla Tech Valley. On applique la même recette, mais pour l'économie du futur.
Exactement. Et c'est là où le dossier devient vraiment passionnant. Ce rôle de dérisqueur ne s'applique plus seulement au béton, aux infrastructures. Ils appliquent la même logique au capital humain.
Investir dans les cerveaux avant d'investir dans les murs, ça c'est un virage stratégique majeur. Le dossier met en avant deux initiatives. D'abord, l'Université internationale de Rabat, l'UIR. Pourquoi une institution financière devient-elle l'actionnaire principal d'une université, avec 52% des parts?
C'est une question de vitesse et de spécificité. Le raisonnement est purement économique. Pour que des écosystèmes comme Technopolis fonctionnent, il faut des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens ultra qualifiés, formés aux standards internationaux. Le système public, malgré ses qualités, n'a pas toujours l'agilité pour créer ses filières sur mesure très rapidement.
Donc, pour la CDG, ce n'est pas de la philanthropie?
Non, c'est un investissement stratégique. C'est s'assurer que le logiciel humain sera prêt en même temps que le matériel immobilier. Et les résultats sont là. Le dossier parle de 88% de taux d'employabilité et plus de 65 brevets. C'est un vrai succès.
Et à l'autre bout du spectre, il y a le programme Job in Tech. Là, on n'est plus dans l'élitisme d'une grande université. On est dans la formation de masse. 15 000 jeunes à former au métier du digital.
C'est l'autre face de la même pièce. L'UIR forme, disons, les architectes du système. Et Job in Tech forme les développeurs, les community managers, les techniciens qui vont le faire tourner au quotidien. C'est une approche beaucoup plus agile, en partenariat avec des bootcamps. Et la phase pilote, avec un taux d'insertion de 90%, montre que ça répond à un besoin criant du marché.
C'est un outil d'inclusion sociale très puissant.
Extrêmement puissant.
Donc si on relie les points... La CDG finance la zone d'activité, finance l'université qui forme les cadres et finance la formation des techniciens. C'est une approche à 360 degrés.
Absolument. C'est pour ça que l'image de banque invisible est très juste. Elle agit à tous les niveaux. On l'a vu jouer le rôle de stabilisateur en sauvant le CIH il y a des années. Et elle agit par le bas, via ses filiales, Finéa pour les PME, Jaïda pour la microfinance. Elle construit l'économie par le haut, par le bas et au milieu.
C'est un modèle très intégré. On a du mal à imaginer comment ça pourrait s'exporter. Et pourtant, le dossier parle de diplomatie financière. Le modèle CDG s'exporte en Afrique. Comment est-ce possible?
C'est une des révélations du dossier, oui. On n'exporte pas l'institution elle-même. On exporte le savoir-faire, la méthode. Beaucoup de pays africains, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, font face au même problème. Ils ont une épargne nationale, mais elle est mal collectée ou mal orientée. Elle ne finance pas le développement local.
Et la CDG a 65 ans d'expérience là-dedans.
Exactement. Elle a l'expérience pour canaliser cette épargne longue vers des projets structurants. Donc, elle accompagne ces pays pour créer leur propre caisse de dépôt.
Mais concrètement, ce transfert de savoir-faire, comment ça se passe? On envoie des équipes à Dakar et est-ce que c'est toujours bien reçu? Ça peut être perçu comme de l'ingérence, non?
C'est plus subtil. Il s'agit de formation, de partage de modèles de gouvernance, d'ingénierie financière. Mais votre point est crucial. Pour que ça marche, il faut une appropriation locale totale. Le modèle marocain ne peut pas être un simple copier-coller. Chaque pays doit l'adapter à son contexte, à sa culture. C'est de la coopération sud-sud, pas une leçon.
C'est présenté comme un outil de souveraineté?
Tout à fait, pour que ces pays dépendent moins des financements extérieurs. Et pour le Maroc, bien sûr, c'est une forme de soft power très efficace.
On a donc une institution surpuissante, au cœur de tout, dont le modèle est une référence continentale. Le portrait est assez impressionnant, mais ça nous amène à la question inévitable. Un tel pouvoir, une telle concentration, quels sont les risques? Qu'est-ce qui empêche un tel colosse de déraper?
Le dossier est très lucide là-dessus. Le premier risque, c'est celui de la complexité, de la concentration. Est-ce qu'une seule institution peut être à la fois un excellent aménageur, un banquier prudent, un investisseur audacieux et un gestionnaire de retraite conservateur?
Chaque métier a sa propre logique de risque.
Voilà. Le risque, c'est qu'une crise dans une filiale en contamine une autre. C'est la fameuse question du « too big to fail », trop gros pour faire faillite.
Et la gouvernance, ça doit être un casse-tête. Qui contrôle un acteur aussi systémique?
C'est le deuxième point soulevé. En théorie, il y a une commission de surveillance, la Cour des comptes. Mais face à une machine pareille, avec des cycles d'investissement aussi longs, le contrôle au quotidien est un vrai défi. Comment s'assurer que les décisions restent techniques et ne sont pas soumises aux aléas des cycles politiques, qui sont beaucoup plus courts?
C'est la tension classique entre le temps long de l'économie et le temps court de la politique.
Exactement. Comment garantir cet équilibre? C'est un arbitrage constant et très délicat au sommet de l'État.
Et c'est peut-être pour ça, pour répondre à ces défis, qu'il y a ce détail crucial à la fin du dossier. Le texte fondateur de la CDG, qui date de 1959, est en cours de révision. Après plus de 65 ans, on réécrit les règles du jeu. Pourquoi maintenant?
C'est la grande question. Le message officiel, c'est la modernisation, l'adaptation. Mais on peut aussi y voir une lecture plus stratégique. Face à une puissance qui devient colossale, réformer soi-même ses textes, c'est une manière d'anticiper les critiques, de montrer patte blanche et de fixer les nouvelles règles avant que la pression ne devienne trop forte. C'est proactif.
Une manière de préparer le terrain pour le grand saut? Ce plan CAP 2030?
C'est totalement lié. CAP 2030, c'est une massification des financements. L'objectif, c'est de mobiliser 100 milliards de dirhams des fonds propres de la CDG et d'en attirer 200 milliards de plus par effet de levier. C'est un changement d'échelle pour répondre aux chantiers de la décennie. L'eau, l'énergie et bien sûr la Coupe du Monde 2030. Pour piloter un tel effort, il faut un cadre de gouvernance qui soit blindé.
Donc, pour résumer, on est parti d'un coffre-fort discret, silencieux, pour arriver à un architecte, un bâtisseur, un investisseur surpuissant qui façonne l'avenir du pays. Une transformation silencieuse, mais absolument fondamentale.
La CDG de demain sera sans aucun doute encore plus puissante. Son défi pour conserver la confiance, ce sera d'être plus lisible, plus transparente, de mieux expliquer ses choix. Sa réussite et celle du Maroc pour 2030 sont devenues indissociables.
Une dernière pensée alors. Le dossier nous apprend que les règles du jeu de la CDG, écrites en 1959, sont en train d'être révisées. Et ça soulève une question fascinante. Quand une institution, pour le bien du développement, devient un pilier aussi stratégique que l'État lui-même, comment redéfinit-on sa gouvernance pour s'assurer que sa puissance reste un atout pour l'intérêt général sans jamais devenir un risque ?